un tango, une danse, un baiser.
Du bouddha, bébé, bébé. Par les temps qui courent.
Ça y est, je suis 21.
Marie Richaud.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Ce soir, on dessine l'histoire de plusieurs métamorphoses dans une époque qui ne dit ni son nom ni ses dates, mais laisse entrevoir quelques périls pour le vivant. La Terre autogénère une population d'êtres que d'aucuns nomment les Epiphanians, d'autres les Mixed Bodies. Ils ont des nez de cochon, des petites cornes de bovidés, des pattes velues ou des ailes de chauve-souris. Ils naissent de la glaise des jardins ou dans l'humus des forêts. Ils en veulent aux humains qui leur rendent bien en leur réservant tout ce que nous savons faire de mieux en matière d'exclusion et de violence. Ludovic de Burne, le deuxième tome de votre série Epiphania est paru aux éditions Casterman. Le troisième tome finira bien par arriver. Ce triptyque, en plus de poser avec puissance un monde en soi, interroge la filiation, ce qu'elle déplace en nous, la production de la violence, le collectif, l'idéologie, l'anthropocène, l'amour, bref, c'est assez vaste. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, merci de m'accueillir. Mes pas s'enfonceront dans la neige. Je sentirai le froid, mais il ne gagnera pas mon sang. J'irai sans chaussures ni fourrure, fouler les terrasses vierges des glaciers. C'est ainsi que je suis fait, à jamais dissemblable de ceux de ton espèce. Là où tu vois s'élever les cités accueillantes, je vois, moi, à travers le bitume que l'on couche à l'infini, pour étendre encore et encore les villes arrogantes, la fin d'un monde fait de racines, de lichens, de vers et de bactéries ancestrales. La viande dont tu tires tes forces aura toujours pour moi l'impossible goût de la mort. Je verrai sans phare la mer se vider de sa chair. Des mondes invisibles s'évanouiront à jamais dans le silence alvéolé d'un sous-bois. C'est ainsi que je suis fait. Mais plus encore, mon père, toi que j'aime, je voudrais te tuer. Je le sens au fond de moi, cet amour que tu m'as porté dès le jour où tu m'as sorti de terre, qui m'a enveloppé quand je me sentais seul. Quand la nuit s'abattait sur ma démarche étrange, quand les regards mauvais me désignaient, animal, étranger, reflet d'un monde perdu, ton amour me donnait la force de croire que j'étais enfin aimable. Et pourtant, grandissante, une incompressible force veut tendre chaque jour mon poing au-dessus de ton visage. Chaque jour, je la supplie de t'épargner. Elle veut ta vie d'homme. Quel monstre suis-je devenu ?
De Vic de Burne, on entre directement avec des mots tirés d'une bande dessinée dont vous êtes l'auteur. Qui est-ce qui parle ?
C'est le jeune Koji, plus si jeune en fait, puisqu'il sort de l'adolescence. Koji, c'est un enfant, comme vous l'avez décrit, qui sort de la Terre. C'est comme ça que sont arrivés ces êtres épiphanianes. C'était l'origine du livre, en fait. C'était l'idée première quand j'ai commencé à inventer cette histoire. C'était cette vision de tête d'enfant qui sortait comme ça, comme une sorte de des demi-sphères qui apparaissaient d'un seul coup dans les jardins, dans les forêts.
Quand même exactement comme ils apparaissent à la sortie d'un vagin, à la naissance d'un enfant humain.
Absolument. Absolument, je crois que c'est cette vision qui m'a marqué, celle de ma fille, qui restait gravée. Et certainement, il fallait que j'en fasse quelque chose. Mais j'ai pas fait la corrélation tout de suite.
Mais c'est vrai que la manière dont c'est dessiné est vraiment assez frappante, quoi.
Oui, oui, avec les cheveux collés comme ça, comme vraiment sortant. Voilà, ouais, effectivement. Et puis, sauf que là, la maman, c'est peut-être la terre. Enfin, on pourrait s'imaginer que s'ils ont une mère, ce serait la terre. Et donc, ces enfants, on réalise qu'ils sont hybrides, mi-hommes, mi-animaux. Quand on les a enfin tirés, quand ils sont enfin sortis de terre, ils ont révélé leur deuxième, le bas de leur corps, qui souvent est animal. Et ça pose dans l'histoire un certain nombre de problématiques, et c'est ces problématiques que j'ai eu envie d'explorer. Donc c'est vraiment le début de l'histoire. Ce qui m'est arrivé, c'est ça, c'est cette tête qui sortait, et puis ensuite le reste de l'histoire est venu des problématiques qui se sont posées d'elles-mêmes avec l'apparition de ces êtres au sein de notre planète, enfin la surface de notre planète. Et Koji grandit vite parce que, comme les animaux, ouais, c'est un peu ce mythe de l'animal, du chat qui grandit 7 fois plus vite, etc. Enfin, donc là, il sort de l'adolescence et il choisit d'abandonner son père parce qu'il sent qu'il est mu par un instinct de destruction. Alors, est-ce que c'est ce qu'on interroge? Est-ce que il en veut? Est-ce que ces épiphanias en veulent à l'espèce humaine tout entière? Est-ce qu'ils sont commandités par la terre elle-même? Voilà, il y a une espèce de mystère qui tourne autour de ça, qui bien sûr aussi traite du de ce rapport à l'adolescent, qui, pour sortir de l'adolescence, traverse toutes ces pulsions violentes de mort, aussi de peut-être de combat avec le père symbolique. Enfin, on peut imaginer comme ça pas mal de lectures. Et c'est drôle, en entendant, en écoutant cette lecture, ça me faisait penser que on a monté une adaptation d'Epiphania en lecture, concert, spectacle. Voilà, ça avait été donné à Petit Bain il y a quelques temps.
À Paris.
À Paris. Et ce passage, du coup, est lu, parce que toute la lecture, l'ensemble, l'adaptation est lue par Patrick Michaelis, qui est comédien, qui a une soixantaine d'années. Et puis, pour faire des petits teasers, comme ça, parce que c'est bien de faire des petits teasers, vous savez, sur les réseaux sociaux, je l'ai fait lire par son fils, qui est aussi comédien, Antoine Michaelis, qui a 27 ans, et qui est plus dans l'âge, en fait, de Koji, et qui donne pas du tout la même voix, la même résonance, en fait, au texte. Et je viens de réaliser que c'est une lettre qui s'adresse à un père, et qu'elle soit lue d'un côté par le père et d'un autre côté par l'enfant. Il faudrait presque pouvoir juxtaposer les deux lectures, les deux âges. C'est ça qui est vertigineux, en fait. Ce rapport des âges, en fait. Et puis on va redire la même chose. Peut-être que ce Koji de 27 ans, s'il atteint les 60 ans, pourra recevoir une telle lettre un jour.
Et elle ne sera jamais lue et ni redite, ni entendue de la même manière. D'ailleurs, on l'entendait dans la voix de Romain de Bacdelièvre. C'est une lettre qui est, en tout cas dans votre bande dessinée, écrite et dite en marchant. Il y a vraiment quelque chose du mouvement. Et de toute façon, toute cette série-là me semble absolument tendue par ce que c'est que d'avancer, de bouger, de changer, de plus être la même personne ou le même être vivant d'un pas à l'autre. Mais pour revenir peut-être aux images du départ, alors vous parlez de ces demi-cercles qui se révèlent être les crânes aux cheveux mouillés des futurs êtres épiphanianes. Et puis il y a cette image qui arrive peut-être juste après, qui est celle des êtres sortis dans une position fœtale où on réalise que leurs membres inférieurs sont des membres animaux. Elle est arrivée quand, cette image-là, qui est assez bouleversante?
C'est assez spécial parce que, alors vraiment, là, on va parler de technique d'écriture.
Tant mieux.
Moi, jusqu'ici, j'ai quasiment écrit tous mes livres en les improvisant, en dessinant. D'abord par le dessin, c'était, je crois que c'était quasiment voilà, ça, le dessin qui initialisait chacune de mes histoires sur comme ça 6-7 planches, comme on dit dans la bande dessinée, planches, pages.
Quoi, vous avanciez et le dessin vous disait ce que vous étiez en train d'écrire.
J'avançais sans savoir, enfin en laissant. En général, pour être vraiment plus précis que ça, je crois que avant même de poser le crayon sur la feuille, j'ai une envie, un désir de quelque chose qui se traduit par une émotion, une colère, un sentiment. Ça peut être de la mélancolie, ça peut être voilà de la colère. Enfin, c'est un sentiment qui me guide sur les premiers dessins. Et souvent d'ailleurs, ça a été des dessins de marche, d'exode ou de, enfin, quelqu'un en train de se déplacer, comme si j'étais moi-même en train de me déplacer dans ma propre tête à la recherche de quelque chose. Mais après, on en reparlera peut-être, mais je pense qu'effectivement, il y a cette idée d'exode, de transhumance, enfin, qui est présente particulièrement dans Epiphania, mais un peu dans chacun de mes livres, et aussi dans mon histoire finalement, ou en tout cas des personnages auxquels je me suis attaché dans mon histoire, et d'ailleurs pas que dans le dessin, dans la musique aussi. Et je sais plus ce que je racontais que...
Le début, voilà. D'habitude, vous dessinez, voilà, et c'est le dessin qui vous amène sur la piste de ce que vous êtes en train de faire.
Et c'est au bout d'un certain nombre de pages que, en général, je laissais reposer les choses, et puis sortir du lit un matin, j'ai un pan d'histoire qui tombe, puis ensuite un autre bout, et que je laisse les choses comme ça toujours advenir. Bon. Là, Epiphania, c'était vraiment une autre histoire. Enfin, ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai écrit le scénario en avance, voilà parce que c'était presque...
Sous la forme d'un texte.
Sous la forme d'un texte. Forme, en tout cas, d'un texte qui n'était pas un texte littéraire, qui était vraiment un synopsis, hein, quelque chose, une histoire, quoi, des bribes d'histoire. Ça racontait vraiment une histoire. Et d'emblée, il y avait ce prisme du genre fantastique, qui est quelque chose que je n'ai pas utilisé jusqu'ici, puisque j'étais davantage dans des récits, symbolique en tout cas, la question du genre ne se posait pas. Et d'ailleurs, je m'étais écarté de la notion de case, de bulle, c'était des vignettes qui flottaient dans la page, etc. Donc là, j'ai écrit le scénario de manière un peu plus traditionnelle, et j'ai mis en page l'histoire de fait de manière un peu plus traditionnelle, parce que ça appelait le genre fantastique que j'ai utilisé pour cette histoire, parce que je crois qu'intuitivement, j'avais besoin d'une certaine distance à cet endroit-là, ce qui n'a pas été le cas de mes autres récits qui ont tendance à convoquer le lecteur très directement à l'endroit de sa psyché et avec plus ou moins de réticence. Enfin, en général, je vois bien qu'on adhère ou on n'adhère pas du tout. Là, il y a cette distance, la même distance qui fait qu'un film comme Alien, qui parle éminemment de l'intériorité de l'humain, de choses... Si on le prenait sous un autre angle, ce serait pas regardable. Mais du coup, c'est un film qui est regardable, et c'est un peu... Voilà, il y avait cette histoire, cette idée en tout cas, d'un seul coup, de mettre un filtre. Moi, qui ai dans ma vie tant de mal à mettre des limites et des filtres autour de moi, c'était un début, une façon comme ça de créer une petite séparation qui me permettait de développer, de raconter l'histoire différemment.
Et alors, pour que vous nous racontiez tout ça, ma question portait sur l'image de ce fœtus enfin sorti de la terre, posé sur l'herbe du jardin, oui, qui dévoile le bas de son corps, dont on réalise qu'il est animal, et que c'est une image qui me semble, c'est le cas de le dire, assez matricielle, moi. Elle arrive quand ?
Elle arrive donc dans l'écriture, même si elle se réalise vraiment, véritablement, que lorsque je la dessine, mais je la dessine des années plus tard, parce que j'étais en train de terminer deux livres aux éditions Cornelius, qui parlaient aussi d'ailleurs d'exode, de paternité, mais l'autre versant de la paternité, parce que ça parlait, je pense, davantage de moi, enfant, vis-à-vis d'un père, avec un rapport plus complexe à l'amour. Alors que là, voilà, cet enfant surgit et il apparaît, parce que au moment où David, le futur père de cet enfant, sort Koji de terre, en fait, il veut le tuer. Il a voulu le tuer à coups de pelle. En fait, il n'en veut pas, sauf qu'il est dans son jardin et que les autorités sont débordées par le nombre d'épiphanianes, qu'ils appellent d'ailleurs mixed bodies. Et demande aux gens qui ont dans leur propriété...
De s'en débarrasser.
Pas s'en débarrasser, de s'en occuper, enfin, de décider, en fait. Donc lui, qui arrive, parce que, bon, au départ, voilà, sans tout raconter, mais ça commence par une espèce de pastiche, de coaching, de couple. Ils partent sur une île avec sa femme parce qu'elle veut un enfant, il n'en veut pas, etc. Et puis, finalement, il y a un tsunami qui débarrasse la femme de l'histoire. Et quand il rentre chez lui, il se retrouve avec cette tête d'enfant dans son jardin, lui qui ne voulait pas d'enfant. Donc, on lui conseille d'aller éclater la tête à coups de pelle. Mais en fait, entre-temps, les yeux sont sortis. Et à partir du moment où l'enfant regarde, il devient sujet. Là, ça devient beaucoup plus difficile de lui éclater la cervelle. Donc, il se dit, je vais le sortir, parce qu'ils se sont rendus compte que quand il est sorti prématurément, on peut imaginer d'ailleurs que quand on sort un enfant trop prématurément du ventre de sa maman, il a peu de chances de survivre, à moins d'être assisté. Et donc l'enfant, il dit, je vais le sortir, et il va mourir de lui-même. C'est pas tout à fait comme si c'était moi qui le tuais. Sauf qu'en fait, devant ce spectacle d'enfants agonisants, se passe une transformation. Il a définitivement, d'un seul coup, il réalise la précarité, la nécessité absolue que David doit s'occuper de cet enfant, sinon cet enfant va mourir. Et là, tout se retourne. Il le saisit, il s'excuse, il veut le sauver. Et là, d'un seul coup, il rencontre l'idée de l'amour inconditionnel. Donc c'est effectivement un moment de bascule très important.
Et ça cette vision-là.
Voilà, et ça se fait de façon radicale, parce que c'est radical, la naissance d'un enfant. Enfin, bien sûr, il y a 9 mois pendant lesquels on apprend à côtoyer cette idée. Je parle vraiment de la position de père, hein, parce que la position de mère, je pense, c'est encore autre chose. Mais pour le père, ça reste très abstrait. Il y a une révélation, une épiphanie à cet instant-là, quoi. Et cette déflagration d'amour que j'ai envie d'appeler inconditionnel, c'était l'objet premier du livre. À ce moment-là, qui était du coup quasi en opposition, en tout cas questionné, il faudrait le lire en regard de donc un père vertueux, enfin 3 fils et un père vertueux qui sont...
Des précédents livres.
Précédents livres, Zition Cornelius, qui sont... si je dis beaucoup plus sombre, je sais pas comment on peut faire plus sombre d'un certain point de vue, mais parce que là, il y a quand même cette tendresse qui est présente.
Bien sûr.
Qui a permis aux gens qui d'habitude ont du mal avec la dureté, la proté de mes propos, de trouver un îlot d'espoir, même si tout ça est quand même prend corps dans une humanité qui est au bord du désespoir et qui est en train de creuser son fossé, quoi, à travers la nuisance qu'elle provoque sur ces écosystèmes.
Ce qui définit le fantastique, je crois, c'est plutôt un certain type de réaction devant certains événements, devant certains phénomènes. Type de réaction que je caractérise justement comme fantastique et qui est celui, en même temps, de l'hésitation, de l'incertitude, de l'ambiguïté. Car dès que l'on décide quelle est la nature de l'événement qui se produit dans cet univers, on n'est plus dans le fantastique. Je pense que ce lecteur doit être entendu non pas comme vous ou moi, un lecteur concret, mais que le rôle du lecteur, le comportement du lecteur, est d'une certaine manière inscrit dans le livre même. Ceci se produit par exemple par le fait que la majorité de ces récits sont racontés à la première personne, ce qui, comme on sait, facilite l'identification du lecteur avec le narrateur. Par conséquent, ce sera le narrateur qui va hésiter, qui va s'interroger quelle est la nature de l'événement qui se passe. Il ne s'agit donc pas d'un critère qui serait la pure expérience individuelle et personnelle, mais plutôt un rôle qui est inscrit dans le livre et qui est celui du lecteur, que nous acceptons ou que nous n'acceptons pas de jouer. Lorsque nous ne l'acceptons pas, nous disons « c'est un genre qui ne me dit plus rien, cette littérature est naïve, je ne peux pas y croire, etc. » On la refuse. Cela veut dire simplement que nous refusons de jouer le rôle qui nous est prescrit et qui, lui, se trouve dans le texte.
La voix de Tsvetan Todorov en 1970 sur France Culture pour approcher des définitions de la littérature fantastique. L'une de ses propositions les plus fortes, c'est l'état d'hésitation dans lequel se trouve à la fois le texte et à la fois le lecteur. Tout à l'heure, vous disiez, Ludovic de Born, que vous avez eu besoin du genre fantastique pour écrire cette histoire. Est-ce que l'idée d'un état d'hésitation vous parle ?
C'est l'hésitation aussi entre faire exister un personnage dans une forme de réalité, enfin lui donner une enveloppe, une chair, et faire que ce personnage existe dans la tête du lecteur, tout en ayant conscience que ce personnage n'est rien, est un fantôme, une poussière, et qu'il est là juste pour exprimer des idées, transmettre peut-être des concepts, même si c'est des concepts picturaux. Il y a cette idée dans le fantastique qui est encore, je veux dire, peut-être davantage magnifiée que lorsque l'on lit un récit à la première personne, autobiographique, et où on est d'emblée dans l'idée que, enfin, ou en tout cas le fait que ça se soit réellement passé participe à la lecture et change la lecture. Là, on est quand même dans un code qui, avec le lecteur, un postulat comme ça, quelque chose qu'on s'accorde avec le lecteur pour dire on va croire à ce conte, tout en sachant qu'effectivement on est en train de parler d'autre chose. Il y a l'idée du désir dans tout ça qui a besoin de bordure pour exister, qui a besoin d'être aussi différé dans le temps, qui a besoin d'une véritable construction, et que à cet endroit-là, à ce moment, au moment où j'ai écrit Epiphania, l'idée de m'inscrire dans un genre fantastique, c'était cette bordure, comme les cases que j'ai remises de manière assez stricte et autour de ces images, contrairement à mes anciens bouquins. C'était cette bordure qui permettait au désir d'advenir. Ce que j'opposerais à la pulsion qui est en permanence suscitée dans notre économie capitaliste, et qui fait de nous qu'on a cette espèce de faim
I am,
oui, dévorante. Et donc en fait, voilà, je crois que pour moi, c'est difficile de séparer, ça a toujours été le cas, le trait de ce que j'avais à dire. Et j'ai à chaque fois choisi une technique, que ce soit la gouache, que ce soit des choses très, très rudimentaires, parfois comme le crayon de couleur ou le noir et blanc. Et ici, donc, ce crayon bichromie, rouge et noir, rouge pour les chairs, noir pour le reste, et puis ensuite mise en couleur, en l'occurrence, par Fanny Michaelis. Je crois que j'ai déjà parlé deux fois des Michaelis, c'est un complot familial. Le choix technique impose des idées, et vice-versa. Là, c'était à la fois la technique, mais aussi le genre qui me permettait d'aller ailleurs, de construire différemment et de questionner, parce qu'en fait je crois je suis au deuxième tome, je sais ce que je vais raconter dans le troisième, mais je sais ce que je vais raconter, comment je vais le raconter, je le sais un peu moins, j'ai une petite idée, mais je sais que parce qu'en fait quand on commence une série comme ça, moi j'étais parti pour 10 tomes, et puis en fait je me suis dit je vais condenser ça en 3 tomes, je vais me servir de l'ellipse, c'est quand même le maître mot de la bande dessinée, hein, puisqu'entre chaque case il y a cette fameuse ellipse, ce blanc entre les cases qui est l'endroit du lecteur, qui est un blanc magnifique, c'est vraiment l'endroit même de discussion avec le lecteur. Et puis plus on a la conscience en tant que dessinateur, plus il y a de chances qu'on puisse discuter avec le lecteur, même si là je parle de blanc et qu'il n'y a pas de blanc entre mes cases, mais c'est pas très important, c'est un blanc conceptuel. Et oui, l'ellipse entre les cases, elle existe aussi entre les planches, dans l'histoire. On peut aussi avoir comme ça des grandes coupes temporelles. Et puis, je me suis rendu compte que, par exemple, il y avait des passages entiers sur l'école. Je voulais raconter, ça me semblait assez sensible de raconter comme ça cette non-intégration, cette difficulté d'intégration
des enfants épiphania,
de leur différence au sein d'une école dite normale. J'avais plein de choses à raconter, il y avait plein de possibilités, plein d'anecdotes, et puis en fait je me suis rendu compte que en 2-3 scènes symptomatiques, ça pouvait finalement résumer, donner peut-être aussi plus de place à l'imaginaire du lecteur, parce que c'est quand même ça le combat ici, hein, pour nous en tant qu'artistes, c'est de susciter de permettre de réimaginer des choses, et encore une fois que ce ne soit pas que notre l'idée, c'est pas de substituer Je ne veux pas voler l'imaginaire du lecteur. J'ai plutôt envie que le lecteur imagine des choses de lui-même qui lui appartiennent après ces histoires, pendant ces histoires.
Et pour reprendre ce que disait Tsvetan Todorov, avec ma petite mémoire, sur le régime d'hésitation, de non-décision proposé par le genre fantastique, il me semble que c'est aussi l'un des moteurs qui fait que ça avance dans votre bande dessinée, c'est-à-dire que la question, elle reste ouverte. Qu'est-ce qu'ils font là ? Pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés exactement sur la Terre ? Pourquoi faire ? Quelle est leur relation avec les humains ? Quelle va être la possibilité de lien entre Koji et son père ? Comment ils vont se débrouiller dans le groupe qui réunit les enfants qui vivent la même différence ? On sent que l'indécision est aussi là, c'est indéterminé au sens agréable du terme.
Paradoxalement, dans mes précédents livres, où il y avait vraiment une volonté comme ça de laisser des grands pans d'histoire, des grands passages très nébuleux, laisser le lecteur dans une forme d'incompréhension qui questionne, de ne pas tout fermer. Ici, dans ce fantastique, j'en suis arrivé à expliquer des choses de manière pseudo-scientifique, parce que ça m'amusait de le faire, mais tout en partant d'un principe le plus fou, parce que c'était ça l'origine du... Presque tout est possible, sauf finalement l'origine. C'est-à-dire que on peut imaginer que la Terre ait synthétisé deux ADN, un ADN humain, animal, cadavre dans la Terre elle-même, et on ait créé une nouvelle entité. On est vraiment dans le conte, quoi. On ne peut pas croire à cette idée. Mais en même temps, j'aime cette poésie inexpliquée qui tient lieu de cœur du récit. Et oui, la possibilité que tout soit encore possible à tout moment, mais après, je pense que ça dépend de la lecture. Ce deuxième tome est assez sombre. On reste en suspens. Et moi-même, j'ai vraiment hésité sur... Est-ce que j'allais conclure tout ça avec le pire de mon pessimisme ou alors sans être optimiste, est-ce que j'allais essayer de terminer ça comme une fable, trouver une sortie qui puisse donner de l'espoir? Les choses restent ouvertes, quoi.
C'est Deleuze qui parle très bien du devenir animal et qui citait dans Mille Plateaux et puis dans l'abécédaire, le devenir animal, c'est un concept deleuzien très très fort avec Guattari. Et il citait le piaulement douloureux de Grégoire Samsa, je ne sais pas dans quelle traduction, comme un exemple de ce vers quoi devait tendre la littérature. C'est-à-dire d'essayer de faire parler les bêtes en nous aussi. D'essayer de... Il dit que la littérature doit porter le langage à cette limite qui sépare l'homme de l'animal. En fait, pour Deleuze, c'est très très important ça. Et évidemment, il parle de Kafka comme un archétype de ce vers quoi doit tendre la littérature. C'est-à-dire se mettre à cet interstice entre ceux qui pensent et ceux qui ne pensent pas. À supposer que les bêtes ne pensent pas. Mm-hmm. Donc ce piaulement douloureux, pour lui, c'est presque synonyme de littérature. C'est ce vers quoi on doit tendre quand on écrit. C'est-à-dire sortir du langage des clichés, du langage habituel. Arrêter de raconter la mort de sa grand-mère, sauf si on est Proust. Et si on arrive justement à la amener, tout à coup, là, je pense à cette agonie de la grand-mère. Vous rappelez que la tête de la grand-mère de Proust, enfin du narrateur, est couverte de sangsues. C'est presque une tête de méduse pour essayer de dégager un peu. Elle meurt d'une espèce d'embolie. Enfin, elle a du sang à la tête. Et voilà. Et le devenir animal, il est partout dans la littérature si on le lit sous un certain angle.
Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Un matin, au sortir d'un rêve agité, Grégoire Samsa s'éveille, transformé dans son lit en une véritable vermine. Il était couché sur le dos, un dos dur comme une cuirasse. Et en levant un peu la tête, il s'aperçut qu'il avait un ventre brun en forme de voûte, divisé par des nervures arquées. La couverture, à peine retenue par le sommet de cet édifice, était près de tomber complètement, et les pattes de Grégoire, pitoyablement minces pour son gros corps, papillotaient devant ses yeux.
Oh. Comment est-il arrivé ?
Ce n'était pourtant pas un rêve.
On devrait essayer de rediffuser cette fiction, cette lecture réalisée par Jean-Jacques Vierne et lue ici par Claude Rich du texte de Kafka et qui renvoie directement à l'archive précédente de Marie Darrieussecq parlant du devenir animal chez Deleuze et donc dans la métamorphose. Ludovic de Burne, on a dit tout à l'heure que ces êtres qui sortent de la Terre dans votre série Epiphania sont... quelque chose entre l'humain et l'animal, ça aurait pu être plein de choses. Je veux dire, ils auraient pu être quelque chose entre l'humain et le robot, quelque chose entre l'humain et quelque chose d'autre. Il se trouve que c'est cette frontière-là que vous avez choisie, cette limite, pour prendre les mots de Marie Darrieussecq. Pourquoi ?
Dans ce deuxième tome, oui. Déjà, je voudrais réagir, parce que je trouve ça... drôle, ça me rappelle quelque chose, ce dont elle parlait quand j'avais lu ou écouté, je ne sais plus si c'est dans l'abécédaire ou dans un écrit de Deleuze où il parle et il dit cette phrase que c'est vraiment stupide d'écrire quelque chose sur sa grand-mère en train de mourir. Il se trouve qu'à ce moment-là même, j'étais en train d'écrire quelque chose sur ma grand-mère qui venait de mourir et je m'étais senti...
Vous l'avez pris pour vous.
J'avais pris totalement pour moi, j'avais arrêté d'écrire cette histoire. Non, je pense que c'était une histoire... qui n'avait pas forcément une destinée, enfin une destinée à être publiée, mais ça m'a fait en tout cas vraiment réfléchir. Ça m'a fait aussi un peu me révolter contre cette idée parce que je pense qu'elle est voilà, c'est un peu, c'est une idée, mais heureusement,
de Deleuze.
C'est une idée de Deleuze et je vois bien ce qu'il veut en dire, mais je pense qu'il ne faut pas que ça empêche des écrivains parfois de raconter le décès de leur grand-mère. Ça peut être intéressant. Mais c'est ça rejoint donc du coup cette idée. Moi, je parle peut-être. Le point de départ inconscient de tout ça, c'est la naissance de ma fille. Et puis, à un moment, ça ressurgit, 5 ans plus tard, sous la forme de cette histoire d'enfants qui sortent de la Terre et qui se mettent à raconter une histoire, quoi, une autre histoire.
Mais c'est des enfants qui ont à voir avec l'animal.
Ces enfants qui ont à voir avec l'animal. Et bien sûr, j'avais d'ailleurs, effectivement, mis... commencé le tome 1 par cet extrait de Deleuze, enfin un extrait de Deleuze et Guattari, sur le devenir animal, en tout cas sur l'idée, moi il me semble que ça, c'est l'idée de parler pour ceux qui n'ont pas les mots, et sans prétention, sans vouloir dire des choses qui ne seraient pas, enfin qui seraient une... C'est un exercice, quoi, de se mettre à la place de celui qui n'a pas de mots.
Ça demande... C'est parler pour ceux qui n'ont pas les mots plutôt que de pousser notre parole à la frontière de l'animalité, ce qui n'est pas exactement la même chose.
Ce qui n'est pas exactement la même chose, je pense que c'est les deux, parce que je crois que c'est aussi ça que ça questionne, c'est notre rapport à l'animal. En tout cas, moi, dans ce livre, il y a un double mouvement. Il y a à la fois cette idée de parler pour les animaux, d'une certaine façon. Là, à un moment, j'en arrive à m'intéresser à la cause animale. Bon, c'était pas quelque chose qui m'avait pénétré jusqu'ici de manière très frontale. Bien sûr, j'y réfléchissais de temps en temps. Ça me venait même violemment. Donc, l'idée de l'animal, l'hybride, cette question-là, elle était déjà présente depuis très longtemps dans mon travail. Elle me questionnait ou elle questionnait quelque chose chez moi sur mon, certainement, à la fois mon état d'entre-deux, ce sentiment d'être entre deux mondes, entre deux, le monde des morts, le monde des vivants, d'être entre l'enfance et l'adolescence et l'âge adulte, d'être dans cette espèce d'exode intérieur en perpétuel devenir, mais aussi sur la question de l'animal elle-même, quoi. Quelle est cette part en nous animal, et est-ce qu'on a intérêt à l'écouter, à l'entendre, ou entendre l'animal, le véritable animal? En tout cas, ce qui me semble de plus en plus évident, à force de côtoyer ces questionnements, c'est qu'on gagnerait beaucoup à retrouver une place d'humilité et sortir effectivement, vous parliez d'anthropocène, enfin, sortir de cette idée que l'humain serait une espèce tellement à part, quoi. On n'est pas... Bien sûr, on a fait beaucoup de choses qui sont à part, mais pas que des choses superbes. Donc, il faut retrouver un peu d'humilité et retrouver des lois, je pense, à partir de ce repositionnement d'échelle. Et c'est pour ça que peut-être il y aura des surprises dans le troisième tome que je ne peux pas dévoiler.
Et ce qui est assez intéressant, le Ludovic de Burne, c'est qu'en fait, ces questions-là, elles deviennent plus précises ou plus impérieuses au moment où un des personnages n'a aucun autre choix que de devenir père. et que le réel de cet être mixed bodies ou épiphanian ou moitié homme et moitié animal fait qu'il se retrouve dans la filiation, dans l'amour, enfin vraiment quelque chose qui s'impose à lui, et que c'est là que revient peut-être une frontière un peu moins claire entre l'humain et l'animal, peut-être un petit peu moins claire sur aussi une identité qui serait figée, quelque chose qui peut même aussi faire entrer beaucoup de féminin dans son corps, dans son lien à cet enfant. Enfin, voilà, on sent que précisément c'est le surgissement de l'enfant qui rebat les cartes.
Oui, ben c'est drôle ce que vous dites, parce que je me suis réveillé avec l'idée que vraiment, je crois que le monde attend juste ce moment où les femmes vont réussir la parthénogénèse humaine et qu'on n'aura plus besoin de mâles dans notre société. Ce sera peut-être
qui attend ça, le monde ou les femmes?
Non, moi, c'est moi. Je me suis réveillé en disant. En
disant
que, ouais, en fait, quand même, ça solutionnerait pas mal de problèmes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes qui viennent des hommes, hein, des mâles, faut quand même bien l'admettre. Et que, quand on.
Et quoi, vous dites quoi? Juste, tout d'hommes sur la Terre, hommes, mâles, ça réglerait les questions.
En étant misanthrope, à un moment, si finalement on se dit que peut-être misandre, ça peut peut-être suffire à résoudre déjà une grosse partie du problème. Non, je crois que... Donc votre question, je vais demander encore une fois, je digresse et du coup j'en oublie.
Que c'était l'arrivée de l'enfant qui faisait que toutes les cartes des limites, des identités figées, des identités fixes, des identités sexuées, genrées, animales, humaines, étaient rebattues.
Oui, parce que faut que je sois vraiment honnête par rapport à, je pense, ce qui a été l'autre point de départ de ce récit. D'emblée, ça va pas vous sembler répondre à votre question, mais il y a un rapport. Comme beaucoup de gens qui qui ont trouvé un certain réconfort dans une forme de déni, je me suis réveillé à l'aube ou dans les nuits de ces attentats parisiens qui nous ont frappés, un coup de massue comme ça, et d'un seul coup, ça semblait être le centre de notre monde, quoi. Vraiment quelque chose de...
Le centre, le surgissement de cette violence?
Le surgissement de cette violence comme étant vraiment la problématique centrale. Et moi, personnellement, ça m'a posé la question, vous voyez, c'est vraiment cette idée lacanienne du réel qui vient frapper ce réel innommable, quoi. Quelque chose, on n'a vraiment pas de terme pour expliquer ce qui vient de se passer. Donc, l'aspiration, en tout cas la mienne, ça a été d'essayer de comprendre, quoi, vraiment, de comprendre comment des humains censés être mus par une pulsion de vie en est arrivé à un état de désespoir tel qu'ils pouvaient avoir cette pulsion de mort comme réponse. Il semblait être une réponse, en tout cas pour eux, valable. Et après, bien sûr, je réalisais que ce qui me semblait être le centre de mon monde, ce n'était que une toute petite chose sur notre planète, quoi, ces attentats. Une petite chose énorme et terrible, mais finalement, quelque chose appartenant à une problématique bien, bien plus globale. Et c'est vraiment le désir de comprendre et de mettre des mots là-dessus qui a guidé initialisé. C'est pour ça que le deuxième tome parle de terrorisme aussi.
Et d'usage de la violence.
Et
du bien fondé d'en faire usage pour une cause qu'on croit bonne, etc., etc.
Exactement. Et du désespoir, et de l'espoir, et de où trouver encore comme ça une possibilité de sortir d'un système avec cette espèce de double, voilà, je réponds un peu plus à votre question, ce double mouvement, le premier mouvement qui a nourri mes livres, c'est le mouvement de l'analyse, enfin de la psychanalyse, celui qui fait advenir le désir au sens individuel, quoi, à titre individuel, avec l'idée derrière, comme ça, la belle idée que si on s'accorde tous à notre propre diapason, il y a des chances pour que ça résonne un peu mieux dans le collectif. Et puis d'un seul coup, je me suis rattrapé mon propre et mon travail analytique, mais aussi mes rêves, mon inconscient, est rattrapé par cette histoire, cette grande histoire qui vient frapper à ma porte justement un 13 novembre. Et là, je réalise, en creusant, que tout ça est pris dans quelque chose de plus grand, qui empêche, qui plafonne ce désir individuel, et qu'à un endroit, je ressens petit à petit, intuitivement, ça commence, c'est très intuitif au départ. Je ne sais pas vraiment comment dire ça. Je sens qu'il faut que je l'écrive justement, que je raconte cette histoire pour que cette histoire me dise à moi-même et me questionne et me raconte petit à petit des choses qu'il va falloir questionner ce plafond de verre. Quel est ce plafond social, systémique qui empêche? Qui m'empêche, en titre d'individu, d'aller plus loin, quoi.
Et pas que vous. C'est-à-dire qu'en faisant ça, vous questionnez aussi ce qui empêche chacun des individus ayant choisi de se donner la mort et de donner la mort le 13 novembre 2015, de vivre avec son désir.
C'est ça, absolument. Enfin, en tout cas, c'est cette idée-là, quoi. Et petit à petit, voilà, j'en viens à cette idée, somme toute, assez simple. Je sais pas, en tout cas c'est comme ça, c'est là où j'en suis là actuellement, mais je crois que je suis dans une période un peu complexe, alors c'est toujours particulier, singulier de parler de quelque chose quand on est dans une période de mutation, mais en même temps c'est ce que vous interrogez depuis le début, donc c'est que vous avez bien senti que c'est de ça dont ça parle.
En même temps c'est
parle.
Ce que vous écrivez.
Oui, c'est ce que j'écris, oui, oui, je peux pas écrire autre chose que effectivement là où j'en suis. Je pense que voilà, nous sommes pris dans une économie capitaliste. Notre désir est capturé par cette économie et en permanence, rabattu au rang de pulsion. Et c'est là où c'est intéressant de questionner l'animal et de questionner la différence entre pulsion et instinct. La pulsion est éminemment humaine. Après, on peut se questionner aussi là-dessus. Ce plafond de verre qui a capturé nos... Ça met du temps, un désir à devenir. C'est un peu comme une... Je suis guitariste, alors j'ai cette image qui me vient. C'est un peu comme accorder une guitare. Il n'y a pas un seul accordage, il y a plein d'accordages. Il y a plein de façons de s'accorder. Et puis, même quand on choisit le même accordage, on n'accorde pas le si, par exemple. Toujours, les gens n'entendent pas de la même manière. C'est une vieille histoire entre la musique tempérée et non tempérée. Je ne vais pas rentrer là-dedans, ça serait trop long, mais c'est passionnant. Et du coup, bah, il en reste quelque chose pour nos oreilles occidentales. Malgré tout, on hésite parfois entre plusieurs accordages. Mais au final, c'est une longue recherche qui nous permet de vibrer à un moment donné. C'est la seule possibilité, en fait, de vibrer un jour et de donner une musique personnelle, singulière, qui est la nôtre. Ça, c'est l'histoire du désir avec son histoire personnelle de créativité. On a besoin d'inventer chacun une histoire plus que jamais. On a cette responsabilité de réinventer, c'est évident. Et tout est fait dans notre système depuis, je pense qu'il n'est pas le seul responsable, Edouard Bernays, qui à un endroit, à un moment, je ne sais plus si c'était le petit-fils, ou non, c'est pas le petit-fils, enfin, c'était un cousin éloigné de Freud, qui a repris les thèses freudiennes, mais qui les a transformées. C'est le premier à avoir fabriqué les publicités américaines, cette idée de la cigarette comme objet phallique, qui a réussi à vendre le bacon and eggs comme le truc américain, alors que ça n'était pas américain, tout ça parce qu'on lui avait demandé de vendre du bacon. Et il avait bien compris que la pulsion, c'était le meilleur moyen de parler à la psyché humaine et de la travailler, quoi. Il allait plus loin parce qu'ensuite il a écrit des théories politiques autour de ça. Et ce personnage et ses collègues ont quand même contribué à fabriquer notre imaginaire collectif, à coloniser notre imaginaire de consommateur.
Et à capturer notre force de réinvention.
Exactement. Donc je crois que... Voilà, moi je me sens en tout cas en tant qu'artiste, là, dans cette période, qui malgré tout ce qu'on en dit est singulière.
Sommé de faire ça, de récupérer ça.
Sommé de travailler, oui, sur cet imaginaire de... Il y a une force vive là qu'il faut... Parce qu'on va pas y arriver chacun de notre côté, ça c'est sûr. Mais en même temps, on a besoin chacun de se réinventer pour pouvoir collectivement réinventer quelque chose qui fonctionne. Parce que là, le système ne fonctionne pas. Personne ne peut dire que ce système fonctionne. Il est éminemment obsolète.
Et mortifère.
Donc, voilà, en tant qu'artiste, je suis dans un double truc, c'est à la fois j'ai des idées là-dessus, je lis et je questionne des gens qui ont réfléchi de manière politique, scientifique, économique à ces questions-là. Moi, je passe beaucoup de temps à dessiner et jouer de la guitare. Je passe aussi du temps à lire et écouter ces gens, à m'en nourrir et puis à essayer de trouver à la fois une réponse peut-être, en tout cas de de susciter une réponse dans le lecteur, mais qui ne serait pas la mienne. J'ai pas, voilà, mon idée, c'est pas d'enfermer ça dans un dogme. C'est pas parce que je suis en train de dire, en grosso modo, que je suis anticapitaliste, que j'assène une espèce de vérité. Ça, c'est comme un postulat de base, quoi. Enfin, maintenant, on dépasse ça, puis on peut aller à autre chose. Mais ce qui a été inventé, c'est pas moi tout seul qui vais le réinventer. Par contre, je peux, en tant qu'artiste, permettre au lecteur, justement, dans le blanc de ces cases, dans ce qui n'est pas dit, dans ce qui est dit, mais dans ce qui est encore en mouvement, peut-être d'avoir envie, de retrouver le désir d'inventer quelque chose. Donc je pense qu'on a plus que jamais, en tant qu'artiste, une responsabilité. Là où je vois, et c'est ma grande tristesse, bon nombre d'artistes qui sont pris dans ce système avec un manque de regard, quoi, un manque de recul. Je suis moi-même pris dans ce système. C'est une révolte, hein. Quand je dis ça, je dis pas que je suis exempt de.
Exempt.
Oui, exempt.
Exempt.
J'ai finalement exempt exactement de cette colonisation. Je suis enfant de la télé. Je suis enfant de. J'ai vu mon addiction à certaines choses pour suffisamment savoir qu'il faut que je nettoie et que je questionne mon propre dessin dans ses limites par rapport à qu'est-ce où est ma créativité propre.
Des bandes dessinées au sens strict du terme, je pense à la peinture parce que les peintres me nourrissent et m'influencent constamment, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'ambition plastique. Mon Dieu, non, surtout pas. C'est très différent. Je veux dire, ce que je veux, c'est tout simple. Moi, je fais des livres imprimés à des milliers d'exemplaires, distribués et vendus dans le public. Je fais pas de pièces uniques. Je ne réfléchis pas sur une seule œuvre. Je veux dire, mes dessins en tant que tels n'ont pas d'intérêt en eux-mêmes. C'est la suite de dessins qui compose le livre qui fait peut-être, sans être bon, l'intérêt du travail, mais chaque dessin en tant que tel, s'il est extrait du livre, pour moi, il ne tient pas le coup. Ils tiennent le coup les uns parce qu'ils sont les uns à côté des autres. Et maintenant, je vais encore vous troubler parce que je vais faire une comparaison picturale. Mes dessins sont se répondent les uns aux autres comme des couleurs sur un tableau. Ils rentrent en résonance, en concurrence ou en harmonie, mais mes dessins sont liés les uns aux autres, ils se répondent et comme sur une surface, sur une composition plus vaste. Mais en tant que tel, ils n'existent pas. Et c'est important pour moi, parce que je voulais faire de la BD et pas de la peinture au début de ma vie.
C'est la voix de Blotch, auteur de bande dessinée. Vous disiez tout à l'heure, Ludovic de Burme, qu'il fallait, pour essayer de résister à la captation du désir par le capitalisme, je fais un petit résumé, quoi, nettoyer votre dessin. Et précisément, Blotch parle de ce qu'il cherche en dessinant, qu'il exclut plus ou moins honnêtement de la peinture. Vous, ça passe par quoi, nettoyer le dessin ?
Ça passe par plusieurs choses. Ça passe par la lecture. Ça passe par le fait de conceptualiser mon dessin, parfois. J'ai besoin de ces allers-retours théoriques.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que je trouve des échos en lisant des essais philosophiques, économiques, je sais pas.
Qui vont déterminer votre geste, ou vont le qualifier, vont lui donner.
Qui vont parfois. Quelques mots me font aller loin, me font digresser comme ça mentalement. Je suis obligé de revenir au livre. C'est parfois assez difficile. Mais
et faire des choix picturaux, par exemple.
Ça implique des choses. Ça implique des changements. Mais je me rends pas toujours compte directement. Mais c'est, j'ai avancé comme ça. J'ai avancé en m'instruisant. J'ai pas avancé que dans le travail. En fait, j'étais un dessinateur compulsif. C'était il y a longtemps. Puis je suis allé à l'université, j'ai fait une maîtrise d'art plastique à Sorbonne, et puis là on m'a dit que c'était une autre époque, mais le discours n'a pas beaucoup changé quand même. Mais qu'en tout cas, à l'époque, c'était vraiment le figuratif, c'est pas possible, la peinture c'est pas possible. Alors, en plus, moi je me destinais à l'illustration, à la bande dessinée, c'était...
Les deux pieds dedans, quoi.
Ah ouais, non, mais voilà. Donc on m'a tellement rabattu, j'avais 17 ans, j'avais tellement rabattu les oreilles que j'étais vraiment nul, quoi, que j'ai arrêté de dessiner. C'était la première fois dans ma vie, parce que je ne vivais que par le dessin. Mon père était artiste peintre, j'ai toujours dessiné, mais raconté des histoires, et puis d'un seul coup, on me dit, en fait, tu sais, mec...
C'est has-been.
Ah ouais, là, t'as tout faux, quoi. Et donc, je me suis mis à faire de la musique, parce que ma mère était professeure de musique, et puis je t'ai dit, non, la musique, c'est pas pour moi, puis là... J'ai commencé à faire de la musique, et puis c'était devenu très excitant de faire de la musique, parce que rencontrer plein de gens, c'était pas différé. Quand on dessine, on donne à voir plus tard, là c'était tout de suite. Narcissiquement, c'était très fort, enfin. Puis je suis revenu ensuite au dessin, mais différemment, avec plus posé peut-être, et avec cette idée comme ça que le dessin allait être moins compulsif et qu'il allait se nourrir aussi d'aller-retour avec certaines conceptualisations. Et en même temps, moi j'ai jamais été 100% dessinateur de BD, j'ai toujours été entre la peinture et la bande dessinée. Même si je crois que fondamentalement depuis toujours j'ai besoin de raconter des histoires, parce que il y a cette voix dans ma tête, ma propre voix, qui a besoin de sortir, quoi, qui a besoin d'exister autrement que dans ma tête. Donc j'ai besoin de raconter ces histoires. Mais j'ai besoin à des moments d'être dans le muet de la peinture, quoi, dans cette aphonie de la peinture. Et ça me permet de nettoyer le geste. Parce que le geste de la bande dessinée, il a ce côté très récurrent. On est obligé de codifier à un moment les choses. Hein. On peut pas réinventer chaque case. On peut expérimenter ça. Moi, j'ai essayé de faire des choses comme ça. Mais à un moment, quand on veut raconter une histoire et qu'on a envie qu'elle soit efficace, on trouve son code, au moins le temps d'un livre. Même si ça change à l'intérieur du livre, mais il y a quand même quelque chose comme ça, une forme de rigidité qui est importante, en tout cas pour moi, de re-questionner par des grandes phases comme ça de picturales. Alors ce que dit Blotch est aussi un dessinateur pictural. Enfin, là, il parle de ses bandes dessinées, je sais pas, ou s'il parle des livres qu'il a fait, qui sont des associations d'images. Effectivement, les images dialoguent, et je crois beaucoup en cette idée que, de la même manière que les livres dialoguent, ce serait toujours intéressant de remettre en lumière et en perspective les différents livres d'un auteur, mais... Blotch brouille un peu ses propres pistes, je pense, quand même.
J'ai relevé ce mot-là de nettoyer, parce que moi, découvrant ce livre-là, Epiphania et votre dessin, je me suis dit qu'il y avait quelque chose, des êtres qui sortaient du fond avec puissance, c'est-à-dire une existence des visages, une existence des corps qui ne niait pas complètement l'environnement, l'atmosphère, le contexte, mais qui était très forts, quoi. Comme s'ils étaient tellement forts, leur existence était tellement forte que, bon, oui, la montagne qui est très belle et qui existe, hein, oui, la cabane, oui, l'appartement, mais en fait, oui, les êtres surtout. Et qu'une partie du nettoyage de votre dessin, en tout cas pour moi, ça aboutit ça à ça.
Et encore, je pense que c'est le livre où je dessine le plus de décors. Hein. Je sais pas, effectivement, ma caractéristique, c'est pas le décor. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain. J'ai toujours été fasciné par les gestes, les postures, les sourires, les petites lumières dans le coin des yeux, des choses sur le bout du nez, des petits détails comme ça, sont des choses qui m'ont toujours obsédé, fasciné. Et d'ailleurs, j'ai remarqué ces derniers temps que ça m'attriste un peu, ça me fascine de moins en moins. Je suis en désamour là, de plus en plus.
Avec les humains.
Avec les humains. Ouais, plus je les vois faire et plus je les vois s'entêter. En même temps, j'aime pas dire ça quand je dis je me mets vraiment à l'extérieur d'eux là d'un seul coup. Non, je fais quand même partie de tout ça moi aussi, mais c'est vrai que je suis moins fasciné, je les regarde moins. D'ailleurs, j'ai arrêté de prendre le métro, qui était quand même l'endroit idéal pour observer et dessiner les humains. Je ne pouvais plus, quoi, j'y arrivais plus.
En les hybridant et les rendant animaux, c'est peut-être ça qui vous fait les regarder
peut-être
mieux.
Peut-être que c'est ce qui me sauve, et c'est vrai qu'on m'a dit, mais tu fais des humains qui ont des bras longs, qui ont des sont un peu... Alors après, ouais, je crois que j'ai une influence aussi forte de la peinture flamande, et cette liberté par rapport à la représentation humaine. Prise dans un certain classicisme et avec une formidable liberté, ça nourrit mon dessin. C'est peut-être aussi une explication de cette difformité parfois, mais c'est vrai que c'est presque comme si ces épiphanias n'étaient presque plus beaux, parfois, même dans leur laideur, que les humains qui étaient représentés. Enfin, encore une fois, le troisième tome racontera d'autres choses par rapport à ça.
Incroyable suspense. Voilà. Merci beaucoup Ludovic de Burme. Epiphania, c'est donc deux tomes pour l'instant aux éditions Casterman, et puis on attend donc le troisième, et puis on mettra les autres références sur le site. Ce soir, c'était Philippe Mercher, au son, à la réalisation, Lise-Marie Barré. Romain Debec de Lièvre, Jeanne Aléos et Corinne Amar m'aident à penser et préparer cette émission. Vous pouvez la réécouter quand vous voulez sur franceculture.fr et en vous abonnant au podcast de Par les temps qui courent. On se retrouve demain, si tout va bien, à 21h.